J'en profite alors, je profite de ce creux pour vous inviter à faire abstraction des visions populaires et courantes sur Noël. Arrêtez d'abord, essentiellement, ne regardez pas Noël comme une fête familiale, comme un échange de cadeaux, comme un bon gueuleton, ou plusieurs d'ailleurs. Laissez tomber ça. Ça, c'est pas Noël. Ça n'a rien à voir. C'est une fête commerciale, à l'occasion de Noël, certes, mais qui est une déviation. Mais pour ce qui est de Noël, du Noël religieux, abandonnez aussi cette vision du petit Jésus qui est tout pauvre dans la crèche, en ayant froid, sur de la paille, avec un bœuf gris et un âne, un bœuf et un âne gris, pour le réchauffer. Ça n'a rien à voir avec Noël, ça encore. C'est une imagerie populaire qui date du XIIIe, XIVe siècle, en Occident tout du moins. Et ça fait de notre petit Jésus quelqu'un de bien mièvre, qui n'a rien à voir avec le sauveur viril qui est venu prendre l'humanité sur ses épaules de manière à nous sauver et nous amener dans le royaume des cieux. La pauvreté du Seigneur ne consiste pas à être né dans une grotte. Il y en a tellement d'autres qui naissent dans des grottes. Et puis croyez-moi, une grotte, à partir du moment où il y a un peu de paille, c'est pas forcément plus inhospitalier qu'une chambre ou une cellule qui n'est pas chauffée, par exemple. Donc des pauvretés, il y en a d'autres sous d'autres formes. La pauvreté du Sauveur n'a rien à voir avec cela. Ni même parce qu'il n'y avait plus de place pour sa mère et pour Saint-Joseph, à l'hôtellerie. Ça a une autre signification. Il ne peut pas y avoir de place pour eux dans l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est le monde. Comment y a-t-il de la place pour Dieu dans le monde? Il fait sa place, mais le monde ne le reçoit pas. La lumière est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Donc, la signification, la raison d'être de cette non-hébergement dans une hôtellerie a bien un sens. Et je ne prétends pas que ce ne soit pas historique en même temps. Si les apôtres l'ont décrit ainsi, parce que ça s'est passé ainsi, la Mère de Dieu leur a raconté à Saint-Luc ce qui s'était passé. Mais ça a une autre signification. L'âne et le bœuf qui viennent, c'est pas pour le réchauffer. Croyez pas que sa mère aurait pu s'en occuper plutôt que de laisser le soin à un bœuf et à un âne. Le bœuf et l'âne sont là parce qu'il y a une évocation du bœuf et de l'âne. J'ai une ânerie, non? qui sont une allusion au prophète Isaïe. Et on les représente, sur les icônes, on représente l'âne et le bœuf à cause de cela. La vraie pauvreté du Sauveur à sa nativité, c'est sa kénose, son abaissement, en étant lui, Dieu, créateur, qui se fait lui-même créature. Quel abaissement! Et non seulement il se fait créature, mais il se fait créature déchue, dans l'état de déchéance dans lequel est devenu la création qu'il avait pourtant opérée d'une manière parfaite, bonne et belle. Donc c'est la pauvreté du Seigneur, c'est cette kénose, cet abaissement, cette volonté de renoncer à l'exercice de sa gloire qui lui revient en tant que Dieu pour se faire en tout semblable aux hommes, semblable à nous. Pour nous et pour nous innerver, si je puis dire, pour pénétrer en nous, pour prendre toute notre nature de manière à la réélever dans l'état où elle était avant la chute. Ça, c'est la pauvreté. Et si vous méditez un peu sur la pauvreté du Sauveur, sur sa kénose donc, vous comprendrez, par voie de conséquence, que notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, est une réponse analogue, une kénose aussi, que nous pouvons faire renoncer à nous-mêmes pour l'autre, entendez pour Dieu d'abord et pour les autres ensuite, de manière à ce que nous soyons vraiment l'icône dont on parlait tout à l'heure, dont on chantait à plusieurs reprises pendant l'orthros, de manière à ce que nous soyons l'icône de la Sainte Trinité, que chacune de nos personnes, et vous voyez que je ne m'écarte pas des thèmes des dimanches précédents, chacune de nos personnes, renonçant à tout ce qui est individuel, tout ce qui nous sépare des autres, de notre égoïsme, entendez, de notre moi, pour prendre un autre vocabulaire, renonçant à tout cela, de manière à créer, avec la grâce de Dieu, par la force du Saint-Esprit, une unité entre nous, l'unité du corps du corps du Christ. Parce que le Seigneur est venu et a accepté, a choisi sa kénose, son renoncement à lui-même, nous-mêmes, avec lui, par la force dont nous héritons de l'amour avec lequel il accomplissait cette kénose, ceci nous renforce et nous permet à notre tour de l'imiter, de faire la même chose et de renoncer à nous-mêmes pour faire un avec lui et entre nous. Vous voyez qu'à ce moment-là, vu comme ça, Noël a une autre dimension que simplement cette image que je stigmatisais au début du petit Jésus frêle et abandonné dans une grotte. La vie de l'Église est souvent une caricature dans l'Église, on fait souvent une caricature. On voit les choses d'une manière humaine, y compris dans le sens de, par exemple, de la prière ou des sacrements, une foule de choses, où on se plaît à voir la venue du Sauveur comme une tentative d'amélioration de notre condition humaine. Tout ça parce que, quand il était visiblement parmi nous, le Seigneur a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il a guéri des aveugles, il a chassé des démons, toutes choses dont on ne doute pas qu'ils soient réelles, mais qu'il n'a pas fait pour tout le monde. Il est resté beaucoup de pauvres en Israël, beaucoup de pauvres matériels. Et il est resté beaucoup de malades, il y en a encore. Donc, si on en regardait là, si on regarde cela, il y aurait la venue du Sauveur serait un superbe échec, si tant est qu'un échec puisse être superbe. Le Seigneur est venu nous initier à autre chose. Il est venu nous initier à une vie éternelle, à la vie du royaume des cieux, à un autre mode de vie. Et les miracles qu'il accomplissait étaient des signes physiques, historiques, je ne sais pas comment les dire, humains, des signes humains, montrant sa puissance, qui nous pouvait nous permettre de croire qu'il peut nous donner et qu'il nous donne l'accès à une autre vie, mais n'est pas venu simplement pour améliorer notre condition humaine. Et n'attendons pas, ni d'un mystère comme celui de Noël, auquel nous pensons ces temps-ci, ni à notre prière, ni à notre vie spirituelle, ni à notre ascèse, n'attendons pas des solutions immédiates à nos problèmes humains. Le Seigneur, par ailleurs, nous dit, dans l'Évangile, nous dit de ne pas nous préoccuper du lendemain. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. C'est d'apprendre au pied de la lettre, ça. Ce qu'il faut nous occuper, c'est du royaume des cieux, c'est-à-dire de sentir, de percevoir, de vouloir d'abord, évidemment, accéder dans cet autre royaume. Et ceci, c'est possible pour toute personne, des plus humbles aux moins moins humbles, je veux dire des plus simples, si vous voulez, aux illettrés autant qu'aux lettrés, aux bien portants comme aux malades, tout le monde peut avoir accès à cela. Mais il faut encore le vouloir. Et pour accéder à ce mode de vie, à cet état de vie, à ce degré, je ne sais pas comment dire, je ne veux pas mettre de qualificatif, mais il faut avoir la volonté, effectivement, d'abandonner une vision trop humaine des choses. Si vous voulez percevoir un peu quelque chose de l'extraordinaire mystère de l'incarnation, mystère que vous n'épuiserez jamais, que vous ne pourrez jamais comprendre complètement, mais que vous pouvez percevoir avec plus ou moins de finesse quelque chose, il faut que vous arrêtiez. Je ne vous accuse pas en disant que vous le fassiez, mais il faut changer de niveau de compréhension des choses et ne pas chercher dans Noël une simple fête humaine ou même une histoire émouvante d'un poupon qu'on dit être Dieu qui serait né dans des conditions difficiles. Même sa mort sur la croix, même sa souffrance, sont à voir d'une manière réelle, bien sûr, mais mystique, si vous voulez. C'est pas parce qu'il a souffert que ça nous a sauvés. C'est parce qu'il nous a aimés pendant sa souffrance, qu'il a supporté cette souffrance et cette mort par amour pour nous, c'est cela qui nous communique le feu de son amour, qui est notre salut. Mais ce n'est pas la souffrance en elle-même. Vous voyez, à chaque fois, ça demande une transposition, pas voir les choses simplement d'une manière humaine. Et là, on est à deux jours ou trois jours de la fête de Noël. Noël, c'est tous les jours. Tous les jours, c'est l'incarnation. L'incarnation, elle est perpétuelle. L'incarnation, c'est une osmose, une compénétration de nos vies, de la vie divine et de la nôtre. Mais l'Esprit Saint a suscité à l'intérieur de l'Église ces cycles liturgiques pour nous permettre de nous arrêter davantage, de pas simplement de méditer au sens réflexif du terme, mais d'approfondir de manière à nous y convertir l'un ou l'autre aspect des mystères dans lesquels nous sommes, ou dans le mystère, parce qu'il n'y en a qu'un, qui est la vérité, c'est l'union de Dieu et des hommes.